poule aux vanilles.
Je pense que j'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille !
Salut à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Deux boules vanille, votre rendez-vous quotidien estival, à retrouver en juillet et août sur Canal B. Une émission que moi je vous propose les vendredis et qui contient quelques rendez-vous, notamment la série Americana avec Richard Delogu, le deuxième numéro dans un instant consacré aux femmes dans l'Americana. Et puis on retrouvera aussi la série Une autre voix par Soazic Le Bay, qui a rencontré des femmes qui ont changé totalement de vie professionnelle. Aujourd'hui, elle parlera avec Laure Denis, de correctrice dans l'édition. Elle est devenue psychothérapeute. Et puis on retrouvera Léa pour ses ondes graphiques qui prennent le large, des sélections de romans graphiques disponibles en format poche. Et puis on terminera avec une rencontre qu'a pu mener Nadia avec trois des danseuses qui venaient interpréter le fameux Rosas Danced Rosas au mois de mai du côté du Triangle. Mais on commence directement de boule vanille avec une échappée vers l'Americana. Bonne émission à toutes et à tous. Dans De Boule Vanille, c'est votre rendez-vous du vendredi avec l'Americana. Alors, c'est pas un genre musical, vous l'avez entendu dans le premier épisode. C'est plutôt une amalgamation de folk, de country, de blues, de bluegrass et encore pas mal d'autres peut-être qui viennent rentrer là-dedans. Bonjour Richard.
Bonjour.
Et c'est toi qui nous sers de guide dans cette contrée américaine pour le coup, mais on verra peut-être que des groupes non américains se sont grandement inspirés de l'Americana. Aujourd'hui, on va parler de la présence des femmes dans la musique dite Americana. Elle a l'air un petit peu petite comme ça, mais finalement non, il y a quand même pas mal de musiciennes.
Ah, on n'est pas loin de la parité sur certains labels quand même, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de chanteuses, notamment qui proviennent de la country. C'est vrai que la country, on s'imagine un univers extrêmement masculin, voire extrêmement sexiste et raciste, etc. Oui, probablement, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de chanteuses, bon, qui sont quand même hyper connues aux États-Unis, qui sont de vraies stars. Hein, Dolly Parton est quand même la plus connue. Bon, même si en France, on n'en connaît pas grand-chose à part Jolene, qui est devenue une espèce de scie musicale, mais c'est quand même une très très belle chanson. Et puis beaucoup d'autres artistes féminines qui sont toujours hyper présentes sur la scène de l'Americana, folk, country alternative, on va dire, actuelle.
Moi j'ai pensé à des grandes anciennes de cette musique country, Lucinda Williams par exemple, Loretta Lynn aussi, qui a eu une grande période dans les années 1960-70 et puis qui a complètement disparu, et elle est revenue grâce à Jack White puisqu'il avait produit un album dans son studio Third Man à Nashville. Il y a quelques grandes chanteuse comme ça, et même Wanda Jackson, chanteuse rockabilly à l'origine, qui a fait de la country par la suite, eh bien elle était revenue aussi dans les années 2010-2015 avec des reprises d'Amy Winehouse par exemple, mais en version vraiment grand orchestre, toujours sous la houlette de Jack White.
Ouais, alors après c'est vrai que, alors Lucinda Williams c'est plus récent parce que c'est vraiment une, alors là pour le coup c'est vraiment la muse, je dirais, de ce renouveau de l'Americana à partir des années 90, et elle est citée par toutes les artistes actuelles, d'ailleurs, de l'Americana, que ce soit Jesse Sachs, on va en parler tout à l'heure, ou Aléla Diane, ou d'autres. C'est vraiment... alors moi, pour le coup, j'ai un peu de mal avec cette artiste-là, mais si on regarde, ne serait-ce que les grands shows du soir aux États-Unis, elle est quand même très régulièrement invitée. C'est vraiment une figure de référence de l'Americana, c'est-à-dire une espèce de rock un peu indie, quand même assez commercial souvent, mais qui s'inspire de la country.
Dans le premier épisode, on avait écouté Johnny Cash, et puis aussi Town Van Zandt et puis Hank Williams. Aujourd'hui, eh bien, mesdames, c'est à vous et on va écouter une musicienne qui est sur la scène depuis pas mal de temps, Emmylou Harris.
Oui, alors elle est née en 1947, donc là en effet, ça commence à être assez vieille. Alors pourquoi Emmylou Harris plus que celle des artistes que tu citais tout à l'heure ou Dolly Parton par exemple? Je crois que Il y a une histoire que j'ai trouvée assez belle avec de compagnonnage, on va dire, avec Graham Parsons, qui est un personnage que j'apprécie aussi dans l'histoire, enfin bon, parce de musical, parce que c'est lui qui a contribué au virage country des Byrds, par exemple. Alors certains le déplorent, hein, parce que c'est vrai que pour ma part, je préfère aussi la première partie des Byrds, honnêtement.
Tu préfères la partie folk rock avec les guitares.
J'aime beaucoup le personnage de Graham Parsons, qui est un peu un type maudit, bon, qui est mort encore d'une overdose, je dirais encore, qui ressemble un peu, je trouve, je sais pas pourquoi, même physiquement, à Ryan Adams. Donc on parlera peut-être dans un prochain épisode, mais qui a fondé Whiskey Town, voilà, et c'est des personnages un peu maudits, et pour le coup, le fait qu'elle ait cheminé avec lui, je trouve tout ça assez attachant, même si le titre qu'on va passer est extrêmement gay, pour le coup.
Et bien on écoute Las Vegas par Emmylou Harris. C'est l'épisode 2 d'Americana cet été dans De Boules Vanille. C'était Emmylou Harris. On va retrouver une musicienne beaucoup plus jeune, contemporaine en tout cas. Je me souviens très bien du jour où j'ai reçu à la poste de Bru le CD de Aléla Diane, The Pirates Gospel. Je l'ai passé immédiatement une demi-heure après, tellement j'étais convaincu tout de suite qu'on avait affaire à une future grande dame, déjà une grande dame à l'époque en 2004.
Hein. Oui, c'était son deuxième album à l'époque, publié par Fargo, et d'ailleurs elle l'a rappelé récemment sur la scène du festival Eldorado. Et donc c'est vrai que dès la première écoute, on se dit que là il y a une espèce de joyau, quoi. La voix est extraordinaire, les paroles sont très belles, et puis y a les compositions aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle compose extrêmement bien, même si à l'époque la voix était un peu on va dire en construction. Savoir que le dernier album d'Aléla Diane, hein, qui vient d'être publié cette année en 2026, est absolument phénoménal. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a toujours cette même exigence en matière de composition. Ils sont trois musiciens, pas plus, contrebasse et batterie. Sa voix, c'est de mon point de vue encore simplifié, c'est plus épuré, et je trouve que c'est encore plus extraordinaire, quoi. C'est vraiment une chanteuse incroyable.
Il y a un super morceau sur cet album qui est dédié à sa fille. Il y a beaucoup de questions de transmission. Ouais. Voilà, bon bah, ça tombe bien. On parle de la nouvelle génération, ou plus jeune génération en tout cas, des musiciennes qui empruntent à ces genres, dit tout à l'heure. Elle propose donc sa version de l'Americana. On l'écoute avec ce titre Of Many Colors. Aléla Diane.
Like the U.S. that's the goal. There is dust in every heart, and in the blue there is a web of tangled thoughts. Oh, how the crystals mix with shards of broken glass. We try to take the danger from the plight of crimson red, but are left to stampede blindly through the colors and the fog.
Peut-être l'avez-vous reconnu, j'espère, Aléladienne. On continue cette deuxième petite balade américaine dans la série Americana avec Richard Delogu dans De Boule Vanille, avec une musicienne que tu as pu voir il n'y a pas très très longtemps en live. Ça tombe bien parce que tu citais un festival, Eldorado. En quelques mots, puisqu'on y reviendra dans un numéro spécial, c'était quoi ?
C'était un festival organisé par le fondateur du label Fargo, qui n'existe plus désormais, mais qui a permis de lancer les artistes, une bonne partie des artistes dont on va parler durant ces différents épisodes, qui avait lieu dans la campagne autour du Mans le 26 juin dernier. Et voilà, donc elle y avait comme programmation Jesse Sykes, Aléla Diane, Dylan Leblanc, dont on parlera aussi lors d'un prochain épisode, et puis d'autres artistes encore promus par Michel Pampul, ce fondateur, là, vraiment qu'un amoureux de cette country alternative.
Je pense que quand tu nous feras le petit report du festival, il y aura pas mal de nos auditeurs et auditrices qui auront envie d'y aller l'année prochaine, si ça a lieu l'année prochaine. Bon.
C'est tous les deux ans, en général.
Ça sera l'année d'après. Donc, on terminera le deuxième épisode aujourd'hui avec Jesse Sykes, vu aussi en live. Présente-nous cette dame.
Alors, si Aléla Diane, c'est une artiste très solaire, là, pour le coup, Jesse Sykes, on est plutôt dans
le cimetière, presque.
Ouais, presque. Je dirais pas autant le cimetière que Sixty North Power, mais quand même quelque chose d'un peu plus gothique, on va dire. En tous les cas, plus grave. Voilà. C'est vrai que c'est une artiste assez extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment une diva. Mais un peu comme Aléla Diane, mais vraiment de deux versants, je dirais, complètement presque opposés, mais autant de talent en tout cas, d'une artiste qui pour le coup a quand même produit 5 albums, dont 4 ont été, faut le savoir, produits par Fargo. Donc, c'est vraiment une artiste Fargo, et ça c'est quand même important, c'est-à-dire que c'est Michel Pampul qui l'a vraiment lancé en France. Et donc elle est toujours et très souvent accompagnée de son ex. Alors on ne sait pas trop si c'est son actuel ou si son ex, vu comme elle regarde sur scène, je pense que c'est plutôt son ex, parce que parfois il se fait tancer sur scène et j'aimerais pas être à sa place. Phil Wancher, qui est par ailleurs un des meilleurs, honnêtement, guitaristes de country alternative de la scène actuelle, un guitariste absolument extraordinaire. Elle a une voix incroyable et incomparable, c'est-à-dire qu'on la reconnaît immédiatement, une voix un peu voilée, assez grave. Elle est elle-même assez peu souriante, voilà, sur scène, et ses compositions sont assez mélancoliques. Il faut noter que Phil Wancher, son ex mari, qui est également toujours son guitariste, il a cofondé Whiskey Town avec Ryan Adams, qui est un autre artiste qui a été produit ensuite par Fargo, bon, qui a pas mal de problèmes pour l'agression sexuelle actuellement, comme pas mal malheureusement de musiciens américains, et tant pis pour lui, mais voilà, sont des gens qui sont très liés les uns aux autres, en fait, sur cette scène aux États-Unis.
Alors, si j'évoquais presque le cimetière quand tu nous présentais Jesse Sykes, c'est aussi parce que je connaissais le titre qu'on allait écouter pour terminer, The Dreaming Dead. Faites attention à vous, rêvez tant que vous voulez, et puis soyez là la prochaine fois qu'on se retrouvera un vendredi dans De Boule Vanille pour le prochain épisode de Americana avec Richard Delogu. Merci Richard, à bientôt.
À bientôt.
again. What did I have then? Don't shake, it's over. Chilled up leaves turn gold and red. Don't shake, it's over.
Une autre voix, une série d'entretiens par Soisy Glebaï. Elles y ont pensé longtemps, réfléchi beaucoup et ont franchi le pas. Changer de vie professionnelle, c'est imposer. C'est aussi prendre des risques, quitter un certain confort. Mais être maîtresse de ses choix leur est apparu le plus important. Quatre femmes, quatre histoires différentes à chaque fois. Aujourd'hui, Soisy Glebaï rencontre Laure Denis, c'est un pseudonyme. Longtemps correctrice dans l'édition, elle a décidé de reprendre des études pour devenir psychothérapeute. Son vrai choix, elle a un cabinet à Rennes et à Redon.
Laure Denis, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été longtemps correctrice dans l'édition. C'est un métier solitaire, la correction. Hein, on est toute seule devant un texte, devant avec ses dictionnaires ou avec Internet maintenant. Qu'est-ce que vous aimiez dans ce métier-là ?
Ce qui me plaisait, c'était la solitude, je pense. De ne pas avoir un patron, disons, devant moi. En fait, ce qui me plaisait, d'abord, j'avais des facilités, j'aimais les lettres, la littérature, j'ai travaillé dans la littérature. Là, je raconte vraiment depuis le début. Quand j'étais petite et que je voyais une faute d'orthographe dans les livres que je lisais, ça m'interpellait. Et je me disais, mais ils font ça pour que ça rentre dans la ligne. Ils ont rajouté un E, ils ont enlevé un S. Enfin, ça me paraissait tellement évident. C'était forcément un calcul pour que ça rentre dans la ligne, ce qui était quand même... C'était une facilité quand même, il y avait ça. Et je l'ai fait un peu de manière pragmatique, par défaut quand même, même si ça me plaisait. Je ne peux pas dire que c'était un choix positif. Moi, ce que je voulais, c'était être psychologue, mais j'ai mis énormément de temps à y aller, quoi, à me l'autoriser. Et ça me paraissait faisable, sans trop de coûts. Ça me plaisait. J'aimais assez bien le milieu parce que j'ai rencontré quelques correcteurs que je trouvais toujours des profils assez sympathiques. J'ai fait une école dont j'avais entendu parler. Mon premier poste, ça a été à la Pléiade. Et effectivement, il y avait du temps parce qu'en fait, c'est tellement précis. Il faut tellement que ce soit parfait. C'est tellement maniaque qu'il nous laissait du temps. J'ai été au bureau 6 mois et après, on travaille à la maison et puis après ils ont externalisé. J'étais salariée au départ et après petit à petit.
Est-ce que ça a un lien avec le choix que vous avez fait ensuite de devenir psychologue ? Parce que le correcteur il travaille sur la faute.
Ouais. Alors pour moi c'est un lien, mais un lien qu'il faut. Enfin, faut préciser quoi, parce que c'est un lien qui peut être aussi, ça peut s'exclure aussi. Mais disons qu'il y a une écoute, alors avec l'écrit, mais on est au plus près de la langue, hein, vraiment de la langue. Moi, j'ai travaillé sur des auteurs, de déplacer la virgule, de la scansion. Enfin, oui, il y a beaucoup de rapports avec l'écoute du psychologue ou de l'analyste. Et puis aussi, dans le sens, alors là, je mets des guillemets, mais mine de rien, ça a des rapports. Où on veut optimiser, c'est-à-dire on veut être au plus proche dans le texte de ce qu'il a voulu dire ou de ce qu'il veut faire ressentir. Et dans le cas de séances, aussi au plus proche d'un vécu, de ce qu'il a vécu. Et voilà. Donc il y a une écoute. Et puis, alors corriger, évidemment, ça ne va pas. Mais c'est pas si éloigné dans le sens où ça va être se débarrasser, par exemple, d'entraves, donc de se libérer, de s'alléger de choses. Et bon, le mot correction irait évidemment pas, mais c'est pas sans lien quand même de se dire on est pur, quoi. Enfin, disons, voilà, de quelque chose comme ça.
I remember the promise that you made in the barn when the kittens were born and you could not keep warm. So you moved away the mountains that the sun rose behind. You said yourself a prayer and lay down with the blind. You lost him in your freedom. You need him now, you're wild. Blessed it is the memory of everybody's child.
J'ai fait d'abord une classe prépa et en terminale j'avais adoré la philo et j'ai fait de la philo après la prépa. Mais en philo, ce que j'aimais, c'était autrui, le langage. Enfin bon, c'était les sujets quand même très liés à la psychologie, je dirais. Mais je pense que dans ma famille d'origine, c'était très dévalué. C'était vraiment nul. La psychologie, c'était vraiment la philosophie, la sous-philosophie, quoi. Et qu'il y avait beaucoup de pression quand même, enfin beaucoup de snobisme, je sais pas, et que j'osais pas y aller. Et puis aussi pour d'autres raisons, parce que moi j'avais une tante qui était analyste que j'adorais, et ma mère, elle, était en grande souffrance psychique et me disait toujours pique-pendre de cette femme. Et je pense que j'ai attendu très longtemps aussi par loyauté envers ma mère, en fait, parce que j'aurais rêvé que cette tante soit ma mère. En vrai. Et donc, c'était compliqué pour moi. Et aussi parce que c'était connu mon goût pour ça. En fait, pendant que je faisais des études de philosophie, j'ai assisté à plein de cours de psychologie. C'était ça, la réponse. Et les gens savaient, enfin, ma famille savait aussi que ça me plaisait, mais encore une fois, c'était très critiqué et tout. Et puis, ou sinon, l'autre option, c'était ma mère qui me disait « Ah ben, comme ça, tu seras ma psy. » Enfin, voilà. Bon, des gros freins, quoi. Et puis, un jour, je suis allée assister à des cours étudiantes en philosophie de pathologie du langage qui étaient donnés par un linguiste analyste qui, lui, m'a proposé de venir assister. Il travaillait dans un CMP à Paris à des séances où il recevait des enfants autistes. Et puis, voilà, je suis allée. Puis après... petit à petit, j'assistais donc aux séances où j'amenais un enfant, je faisais des trajets avec ces enfants-là, enfin, petite main, quoi, un peu. Et puis après, il m'a proposé d'avoir une séance seule avec l'enfant supplémentaire pour qu'il en ait deux par semaine. C'était des enfants dans des situations très difficiles. Et ça a duré quand même 7 ans.
Vous étiez correctrice pendant ce temps-là ?
Non, j'étais pas encore correctrice, là. Là, j'étais... étudiante et j'avais des jobs et je faisais ça. Ça me prenait du temps, hein, parce que c'était loin de chez moi. J'allais le chercher, c'était dans des tours, porte de Choisy, dans des endroits super sordides, des enfants qui seraient jamais venus si des gens les accompagnaient pas à ces séances. Et parce que les familles pouvaient pas du tout s'occuper de ça, quoi. Ça a duré quand même très longtemps. Pendant 2 ans, j'ai travaillé aussi à ce moment-là, où j'étais toujours pas correctrice, dans une association de lutte contre la solitude enfantine à Longjumeau, en banlieue parisienne, où j'avais une espèce de statut un peu curieux, mais plus ou moins psychologisant, voilà. Mais en fait, ces expériences-là, donc, qui étaient quand même très importantes, hein, enfin, quand même en temps, je savais pas si j'étais du côté des enfants ou du psy, quoi. Je me sentais beaucoup plus proche des enfants. Et parce que quand même, cette histoire-là au Centre Alfred Binet, où je suis allée pendant 7 ans, j'avais aucun statut. Cette personne-là, elle avait plein de petites mains comme ça. Enfin, c'était curieux, quoi. Quand j'y pense rétrospectivement, c'était quoi le... Donc, il aurait fallu que moi, petit à petit, je revendique, je demande, j'élargisse mes contacts là-bas, mais je faisais pas du tout, j'étais pas comme ça. Et donc petit à petit, le fait, je me suis sentie plus proche, en fait, des patients, quoi. Voilà. Et par ailleurs, moi, je faisais un travail de psychothérapie, quoi.
Five in the morning,
and there's no one at home except for your wife and your child on the phone. Someone's got to listen to a promise or two. This room is far too small for a pilgrim like you. You lost him in your freedom. You need him now, you're wild. Blasted is the memory of everybody's child.
La psycho, c'était toujours ancré en vous. Donc on peut dire que la correction, ça a été la première bifurcation. Vous avez abandonné la psychologie pendant ce temps-là ?
J'ai un peu abandonné avec les bémols qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je trouve quand même que c'est pas complètement sans lien. Dans le sens d'être, je sais pas quel mot dire, mais au service de quelque chose, en fait. Enfin, vraiment, on va essayer de rendre meilleur, de rendre mieux, alors plus léger ou moins souffrant, ou un texte plus juste, voilà, c'est ça.
Et on parle d'écouter la voix de l'auteur.
Ouais,
enfin, je...
Tout à fait. On écoute. Et puis j'ai fait de la poésie aussi, où je lisais tout, enfin, donc... Oui. Mais c'était une bifurcation, et c'était même... Et un peu affirmée par rapport aux doutes que j'ai commencé à dire, cette bascule où je me sentais quand même plus proche. J'étais un peu choquée du comportement de ce psy qui me faisait venir pendant 7 ans, qui m'invitait le vendredi soir à des réunions où il n'y avait que des étudiantes. Bon, une ambiance, quoi. Et puis aussi, je n'avais pas du tout aimé. Dans l'association où je travaillais à Longjumeau, il y avait une autre psy que je n'aimais pas du tout. En fait, je pense que de ce temps-là, j'ai quand même aussi construit, alors en creux, ma sensibilité d'analyste ou de psychologue, mais en creux et un peu douloureusement, parce que m'en sentant finalement, m'en excluant quand même pas mal. Et effectivement, la correction, je me suis dit, là, ça va pas dépendre de mes états. Là, il y a une syntaxe, une grammaire, une orthographe, et même si je suis mal, je pourrais le faire. Je me sentais quand même, il y avait des moments de vacillement où je me sentais pas capable, quoi, pas force, pas régulière, disons. Donc ça me faisait un abri. Et donc oui, c'était une bifurcation. En tout cas, c'était un moment où je me suis dit, j'arrête de traîner là-dedans, je fais ça, et puis... Mais bon, ça restait très présent. Et puis je me formais, parce que je lisais, j'allais à des séminaires, j'allais à des colloques, j'ai toujours fait ça. Donc c'était bizarre, quoi.
Sleeping after the big storm, I thought I was dead, but I was in Rome, dreaming of my XXX lady. XX lady's coming back to me, giving me the key for a new therapy, made out of love, bars and kisses and ecstasy.
Et donc un jour vous avez franchi le pas. Comment?
Ben, en partant de Paris et de ma famille. Un peu quand même, en m'éloignant avec des kilomètres, en mettant de la distance. Parce qu'en fait aussi, il fallait que je reprenne tout un cursus, alors sauf en devenant psychanalyste. Mais moi, ce truc de ne s'autoriser que de soi-même et tout, ça me paraissait un peu bizarre. J'avais envie, j'étais triste de pas... Parce que la psycho, j'avais assisté à des cours, j'avais jamais réussi à m'inscrire vraiment, à valider. J'étais douloureuse de cette non-inscription, de cette non-facilité à me dire, ben, j'y vais, de mes doutes, quoi. Et donc, je me suis pas du tout dit, je vais être analyste et juste rentrer dans une école et machin. J'ai voulu avoir un titre universitaire. C'est quand je suis arrivée à Rennes que ça a été possible, parce qu'entre-temps, j'avais eu 2 enfants et que... à Rennes, j'étais à 8 minutes de la fac. Enfin, tout était facilité par rapport à Paris, où je mets 2 heures pour aller enfin, ou tout très lourd, quoi. Et aussi parce que j'allais ralentir mon activité professionnelle, donc avoir moins de, d'avoir un loyer moins important, enfin voilà. C'est en arrivant à Rennes que j'ai pu le faire, et c'était il y a 10 ans.
Ça fait donc 10 ans. Non, vous avez. Ça fait 10 ans que vous êtes psychologue.
Non.
5 ans.
Ouais.
Et votre diplôme en poche.
Ouais.
Vous avez décidé de travailler.
Oui.
D'abandonner la correction. Non, pas tout à fait, peut-être.
J'ai eu quelques petites propositions et puis ça j'ai arrêté. J'ai travaillé tout de suite en libéral, mais dans le cadre d'une maison de santé, ce qui est rassurant parce qu'on a des collègues, parce qu'on a une visibilité, parce qu'on a un lieu. Voilà, mais c'était tout de suite en libéral. I thought that dreaming that school is ever a soul. Inventing the games and losing control. But hottest dreaming is hardest living. 7 days dreaming a dangerous game. Gonna more knows I've lost all my names. These beats are still fighting all around me. 7 days sleeping after the big storm. I thought I was dead, but I was in Rome. Dreaming of my ex-ex-ex lady. En travaillant dans cette maison de santé, je bénéficiais de la visibilité du lieu. Et puis, en fait, j'ai démarré, moi, j'étais toujours timide en démarrant, et je le reste. Et donc, j'ai démarré par un remplacement. J'ai remplacé, en fait, une dame qui était partie en congé, où elle m'avait fait entendre que ça risquait de se pérenniser. Ça, et elle-même était arrivée il n'y a pas très très longtemps. Donc, elle avait quelques patients. Pour autant, elle n'était pas dans des suivis très installés. Donc, ce n'était pas non plus trop compliqué de que les patients changent. Ils n'étaient pas très loin dans le suivi, très avancé. Et donc, voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis voilà. Et puis après, enfin voilà, ça. Après, les gens discutent. Il y a quand même un peu un manque de psychologues, hein, donc on trouve des patients, quoi. À Redon, je partage le cabinet avec une autre psychologue qui, elle, était déjà installée depuis longtemps. Donc le fait d'être sa collaboratrice aussi m'a amené de la patientèle. Et on s'est un peu distribué où je reçois plutôt les enfants et elle plutôt les adultes. Mais c'est pas une loi gravée dans le marbre, je reçois aussi des adultes et elle quelques enfants. Je pense qu'elle aime pas tellement recevoir des enfants. Donc, mais moi j'aime bien recevoir des adultes. Donc à Redon, j'ai plus d'enfants, mais depuis j'ai ouvert aussi un cabinet à Rennes. Et où j'ai plutôt plus d'adultes. XX lady on my lady's flame. Nine year lady, they can know my name. 7 days sleeping, wanna try again. Oh, XX lady, where my lady's flame. Nine year lady, they can't know my name. 7 days sleeping, I will try again.
Et alors, vous sentez là à votre place, enfin ?
Oui, ouais. Enfin, je me sens heureuse, quoi. Quand je dis ça aux gens, ils me regardent. Mais moi, je suis hyper heureuse, en fait. Je suis hyper heureuse de faire ça. Et j'adore. Voilà, alors, ma place, je ne sais pas. Je parle pas de la qualité de mon travail. Je parle de... J'ai attendu et je trouve ça... Enfin, même, j'avais des vertiges au début à me dire, mais... Comment on peut faire autre chose, en fait ? Enfin, c'est tellement évident, voilà, il n'y a rien, on est face à quelqu'un et on essaye juste d'être au plus près. Il y a un truc tellement évident, tellement simple, en un sens, dans le comment ça se présente, quoi. Et on pourrait être dans la rue, je sais pas, enfin... Oui, je suis très, très, très contente. Ouais, très.
Dans ce deuxième épisode de la série Une autre voix par Sozy Globay, qui rencontrait Laure Denis, c'est un pseudonyme, vous avez entendu les titres Blessed is the Memory par Birds on a Wire et 7 Days par Fantasio. Dans une prochaine émission de Boule Vanille, un vendredi, vous retrouverez une autre de ces 4 femmes qui nous propose 4 histoires de changement de vie. Now that you decided to follow the sun like a
too dark for the seas you must swim. You're smiling at the seaweed, but your smile is too grim. You lost him in your freedom. You need him now, you're wild. Blasted is the memory of everybody's child.
Quel meilleur moment que l'été pour lire de la bande dessinée dans De Boulevanie. Eh bien, Léa nous rend visite à raison de 4 chroniques. Vous l'entendrez en juillet et en août avec ces ondes graphiques qui prennent le large. Tu nous proposes des albums, romans graphiques qui peuvent se glisser facilement dans un sac à dos, dans un sac de randonnée, dans une valise. Aujourd'hui, tu nous présentes Joey la Pirate d'Hubert et Virginie Augustin, paru chez Glénat en 2021 et puis disponible en poche depuis 2024.
Joe la Pirate, c'est une bio romancée d'une femme extraordinaire tombée dans l'oubli. Marion Joe Carstairs est née en 1900 à Londres dans une famille d'aristocrates. Rejetée par sa mère, elle est envoyée en pension aux États-Unis où elle s'épanouit. Véritable fonceuse, elle parvient à devenir chauffeuse pendant la Première Guerre, puis monte sa compagnie de taxi exclusivement féminine. Celle-ci ne durera malheureusement pas. Mais Jo a de la ressource et décide d'acheter une île au milieu des Bahamas. Elle la développe et prend part à l'économie locale, créant une société quasiment autonome. Elle fait tout ce qu'elle peut pour que les habitants des îles alentours puissent se tirer du joug des grands ponts commerciaux, quitte à ce qu'elle en subisse les conséquences à son tour. Passionnée de bateaux et de navigation, elle collectionne les navires et participe à de nombreuses compétitions. Elle a 1000 vies et est toujours bien accompagnée. Ouvertement homosexuelle et véritable garçon manqué, elle ne cesse de séduire les femmes et de rivaliser avec les hommes. Organisatrice de fêtes qui n'ont pas leur pareil, elle vit à 200%. Elle est fascinante par sa personnalité fantasque et impulsive, sa fougue légendaire et son émancipation. Elle n'a que faire des regards et des avis d'autrui, et ça, ça fait un bien fou à lire. Jo la Pirate est le dernier scénario du regretté Hubert, à qui l'on doit notamment Peau d'homme ou Beauté. Il n'a pas son pareil pour explorer les chaos intérieurs, car si Jo impressionne par son aplomb, elle n'en reste pas moins nuancée. Il s'associe à nouveau avec Virginie Augustin, avec qui il avait collaboré pour l'excellent Monsieur Désir. Ici, le trait est fin, épuré et très élégant, dans un noir et blanc qui colle au côté un peu rétro de l'album. Jo la Pirate est un récit queer passionnant à faire lire aux ados et aux plus grands.
Joey la Pirate d'Hubert et Virginie Augustin chez Glénat en 2021 et puis en version en poche depuis 2024. On ne change pas cette tradition, hein. Dans le Grand Tout, tu nous proposais aussi une sélection musicale accompagnant le choix de bande dessinée. Tu le fais aussi dans De Boulevanie. C'est quoi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est Listen to Me de Fox Warren. Donc, c'est l'association de Andy Schoff et Daryl Kissick sur l'album 2 qui est paru en 2025. C'est un titre au second degré qui va de mise avec l'excentricité de Joe.
Merci beaucoup, Léa. On te retrouve eh bien, vendredi bientôt dans De Boulevanie, puisque tu nous proposes ces petites manières de faire voyager les ondes graphiques qui prennent le large cet été sur Canal B. À bientôt.
À bientôt.
Listen to me. It's almost like you never listen to me when I'm speaking. You should listen to me. I know I'm not some movie star setting some big script, but if you open your mind, I might be able to tell you something. Thank you.
Terminé de Boulevani, une interview qu'a pu mener Nadia avec trois danseuses, Yasmine Ashtari, Eva Galmel et Nina Goderis, lors de leur passage au Triangle pour interpréter le fameux Rosas, Danst Rosas.
On parle souvent de Rosas, Dan Rosas comme une pièce mythique, fondatrice presque d'un monument de la danse contemporaine. Donc mes premières questions vont être sur cette question d'héritage et de transmission, puisque la pièce date de 1983. Tu appartiens à cette cinquième génération d'interprètes. Qu'est-ce que ça fait de reprendre une telle pièce ? Comment cette pièce, elle a traversé autant ses corps ?
De reprendre cette pièce, c'est vraiment un honneur et quelque chose d'exceptionnel, parce que en fait, pour moi, elle m'a suivi un peu toute ma vie de danseuse, parce que je l'ai découverte même quand j'étais dans des conservatoires en histoire de la danse. Donc c'est une pièce qui a toujours fait partie déjà de mon patrimoine sans même que je puisse la danser. Et alors après, quand on te propose de la danser, c'est vraiment rentrer dans les chaussures de tellement de femmes, de fantômes qui ont habité cette scène et qui ont habité cette danse. Et c'est vraiment un honneur et c'est tellement beau de voir des choses qui continuent dans le temps et qui persistent et qui gardent de la valeur.
Pour Yasmine, quand on regarde les archives de la pièce, on est frappé par la précision, mais aussi par une forme d'engagement presque brut du corps. Comment on travaille cette tension entre exactitude et abandon ?
Ça a été beaucoup de travail. La pièce nous a été transmise par Fumio Ikeda. Chaque mouvement est extrêmement précis, ça a été très répété et tout a été tellement bien écrit qu'il s'agissait vraiment de retrouver, enfin un peu de réussir à un peu imiter les mouvements qui avaient été faits avant.
Tu avais regardé la pièce avant, puisqu'elle a été moult fois filmée. Est-ce que, par exemple, pour t'approprier ces gestes, t'as regardé avant des images ou ça s'est fait uniquement par une transmission d'interprète à interprète ?
Non, j'avais regardé, j'ai jamais vu la pièce en live. J'avais regardé le film qui a été fait par Thierry Demey. Et donc il y a énormément de femmes qui dansent dans ce film et donc il y a aussi énormément d'interprétations différentes, donc c'était une grande source d'inspiration de pouvoir voir toutes ces façons d'approprier ces mouvements qui sont encore une fois très écrits et très précis. Après je pense qu'il y a toujours quelque chose d'un peu s'approprier ces mouvements-là, donc il s'agissait un peu de respecter le travail et toute la recherche qui a été faite tout en trouvant une façon que ça soit confortable dans nos corps et que ça devienne un peu à nous quoi.
Vous avez toutes les trois des parcours très différents. Certaines viennent du ballet, d'autres de contemporain, d'autres du répertoire, d'autres de création plus hybride. Eva, qu'est-ce que cette pièce, elle provoque par rapport à tes habitudes de danseuse? Ou en tout cas, est-ce qu'elle déplace quelque chose?
Pas vraiment, justement, parce que là, on parlait de cette écriture tellement, tellement précise et ce rapport à la musique, très, très écrit. Et du coup, je m'y retrouve. Justement, moi, j'ai commencé par le ballet. Il y a quand même quelque chose d'assez écrit qui me permet, notamment dans la répétition, de trouver un peu ma place. Et je pense que cette répétition, justement, à la fois, je m'y retrouve et à la fois, c'est tout l'enjeu là, de la pièce. C'est cet épuisement, cet engagement qui fait que je trouve ma liberté que par ça, que par le fait de répéter 100 fois la même chose et de le faire à chaque fois différemment avec, en tout cas, une intention différente, quoi.
Par rapport à ce qui est fascinant dans cette pièce aussi, et ce qu'on sent à la fois une structure extrêmement rigoureuse, vous l'avez dit, c'est très écrit. Puis en même temps, il y a quelque chose d'organique et presque parfois de sauvage. La pièce a été vécue et lue comme un manifeste féministe à sa création en 83. Est-ce que cette dimension, qu'est-ce que ça signifie pour vous en 2026, puisque vous êtes trois jeunes interprètes? Et est-ce qu'on danse encore la pièce de la même manière 40 ans après, Nina?
J'imagine qu'on la danse de la même manière. En tout cas, je trouve que c'est une belle célébration et ça nous permet de dire « Ok, j'ai ce corps-là ». Je danse comme ça et je brille dans la lumière avec ça et c'est largement suffisant. Et de mettre ça au plateau et en plus de mettre quatre femmes les unes à côté des autres pour montrer nos différences et ce qui fait aussi commun et consensus, je trouve que
ça suffit comme manifeste. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est juste de voir des corps comme ça sur scène. C'est déjà magnifique. Et de faire briller, c'est sa force aussi à Anne-Thérèse Kirsmaker, c'est vraiment de faire briller les individualités, les personnalités, de dire, OK, tu es comme ça, mais vas-y, sur scène, fais. Et tu peux en faire encore plus. Et tu peux en faire aussi différemment. Tu peux te réinventer. Et c'est ça qui fait briller tous ces corps sur scène.
Il y a quelque chose de très fort sur le fait que ces quatre femmes occupent l'espace aussi longtemps, avec autant de détermination physique. Est-ce que vous sentez parfois le public traversé par cette énergie-là, presque politiquement ?
Je pense que le public partage beaucoup de choses de ce qu'on ressent sur scène, oui. Parce qu'il y a une espèce de progression au fil de la pièce, où on arrive à un espèce de stade d'épuisement et... Et pour moi, c'est aussi peut-être ça qu'on va amener sur scène. C'est un peu cette envie de montrer jusqu'à où on peut amener notre performance. Et je pense que le public peut-être trouve en ça, en cet épuisement, en cette façon d'exprimer autant d'énergie et de... Je sais pas, enfin, ça nous amène à plein de différents endroits. Toute cette progression, je pense que le public ressent vraiment, oui, quelque part notre épuisement et notre volonté d'arriver à bout avec cette pièce qui est très, très compliquée.
Pour finir, le regard d'Eva, est-ce que tu as l'impression qu'elle parle davantage de résistance, de collectif, d'endurance ? Est-ce que c'est une féminité représentée pour vous, avec votre jeune génération ?
Oui, je pense qu'elle est représentée, mais surtout dans le lien qu'elle nous fait entretenir les unes avec les autres. Tu demandais tout à l'heure si on la danse pareil qu'il y a 45 ans, la pièce. Je pense que les corps changent, et même la manière de s'approprier le mouvement. J'ai l'impression, et d'ailleurs c'était hyper intéressant de mettre ça en commun pendant le multicast, c'est une version qu'on a fait avec les 5 générations ensemble en janvier, et on s'est rendu compte des différences, des micro-changements et d'adaptation de génération en génération. Mais ça, c'est vraiment sur la partie danser, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui nous a toutes frappées, c'est que par contre, ça crée le même lien, la même sororité qui est mise en scène, enfin pour le coup, et on nous en parle à chaque fois qu'on sort. On nous demande tout de suite si on est copine, on nous demande tout de suite si on s'entend bien. Il y a un lien qui, pour le coup, découle vraiment de la pièce, quoi.
Et qui est intergénérationnel.
Ouais, j'ai l'impression. Et ça, c'est super à traverser.
Est-ce qu'il y a un moment dans la pièce où vous sentez particulièrement le collectif entre vous ? Tu l'évoquais à l'instant. Un endroit où vous cessez d'être quatre interprètes individuels, mais pour devenir un seul organisme unique féminin. Et est-ce qu'il y a un moment, Nina ?
Bon, déjà, c'est une vie de tournée très longue, donc on est très souvent ensemble. Et ça commence même avant de rentrer sur scène avec notre petit rituel à quatre. Et ça commence quand, en fait, on a partagé ce qui s'est passé dans nos vies, dans la journée, etc. Et on porte ça au plateau. On sait qu'un tel est fatigué ou qu'un tel est très joyeuse. Et en fait, on nous a toujours dit, mais regardez-vous yeux dans les yeux. Et il y a plein de moments dans la pièce, du premier tableau jusqu'au dernier tableau, où on peut faire ça. Et c'est de la transmission d'énergie constante. Ne jamais se perdre les unes des autres avec notre regard. Et c'est ça qui nous lie. Et pour moi, ça traverse toute la pièce.
La musique, évidemment, elle a un fort aspect dans cette pièce. La musique de Thierry Demey et Peter Van Mersch agit presque comme une machine physique. Comment elle agit sur vous pendant la représentation ? Est-ce qu'elle soutient le mouvement ou est-ce qu'elle vous met parfois en tension ?
Pour le coup, elle arrive un peu comme un soulagement après la première demi-heure de silence. Qu'on sent parfois compliqué pour le public. Et en même temps, qui est justement, on parlait de la machine et de faire qu'un, c'est vraiment le moment où on a l'impression d'être une seule et même machine. Et pour le coup, il n'y a pas cette musique pour nous soutenir, c'est que nos respirations et on communique comme ça. Et ça, c'est très fort de commencer. C'est une chance, je pense. Parce que du coup, on n'a pas le choix que d'être dedans. Mais elle arrive comme un soulagement et en même temps, elle peut être agressive, ça dépend vraiment des jours. Il y a des jours où on l'entend mieux que d'autres, ça dépend des théâtres, mais elle est hyper agréable.
Mmh. paradoxalement, à la fin, il y a la fatigue, qui est, parce que c'est une pièce qui est physiquement très engageante pour vous quatre. La fatigue, elle finit aussi par produire une autre qualité de présence, selon vous ?
Oui, complètement. Ça transforme complètement la performativité qu'on va avoir sur scène, je trouve. C'est une espèce de bataille entre un relâcher, un laisser aller et en même temps essayer de retrouver de l'énergie, de danser ensemble, de se regarder. Enfin, on parlait avant des regards qu'on peut avoir partagés sur scène pour se transmettre de l'énergie. Ça fait d'un coup vraiment partie de la danse parce qu'on en a tellement besoin pour arriver jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est un espèce d'état dans lequel on arrive, dans lequel on relâche notre corps et on se pousse jusqu'à la fin. Ouais.
Il y a trois représentations au triangle. Et puis autour de ces trois représentations, il y aura une représentation avec des amateurs et amatrices qui ont été formés par une personne ici au triangle qui est Nathalie Salmon. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'une pièce aussi exigeante puisse être réappropriée par autant de personnes différentes ?
Bah, ça m'inspire beaucoup de joie. L'exigence, c'est quelque chose... Tant qu'il y a du désir, et c'est des gens qui, enfin tous les amateuristes qui vont venir, c'est des gens qui ont le désir de le faire, et donc l'exigence est forcément déjà là, et ça suffit largement. Et c'est tellement important de montrer que la danse est vraiment accessible à tous, et que donc du coup dans ce contexte-là, on peut voir cette pièce au plateau, mais on peut aussi la voir sur une esplanade, on peut la voir plus lente, parce que peut-être qu'on aura besoin de ralentir la musique, on peut la voir avec des enfants, on peut la voir... Et c'est ça la beauté de l'art vivant, c'est avec tous les corps vivants, quoi.
Cette pièce originale, le fait de ne pas seulement être spectateur, mais aussi de la vivre en la dansant, qu'est-ce que ça change pour les publics qui vont, à mon avis, être aussi ceux qui vont venir voir la pièce ?
Je pense que ça crée de l'empathie, enfin pas au sens de traverser avec, mais juste de... Oui, il y a peut-être plus de compréhension ou de... On reconnaît quelque chose qu'on a déjà traversé dans son propre corps et c'est en même temps pour ça qu'on va sur scène. C'est pour créer peut-être de l'empathie et communiquer une histoire. Donc là, même si c'est pas de narration dont il s'agit, je pense que c'est chouette. Et aussi, nous, en tout cas, en tant que danseuses, ça nous fait réaliser l'ampleur du bordel, j'allais dire. Mais l'ampleur de cette pièce, quoi. Qu'il y ait d'autres gens qui puissent la danser, qu'il y ait un film autour, que ce soit pas juste une pièce de répertoire, mais quelque chose qui se transmet vraiment. Et oui, du coup, ça crée beaucoup de reconnaissance.
Pour toutes les trois, du coup, qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs ou les spectatrices qui connaissent pas du tout la danse contemporaine, et peut-être même pas cette pièce-là, ressentent en entrant dans cette pièce ?
Yasmine ?
Je pense que c'est assez chouette de venir et découvrir la pièce sans avoir aucune attente, parce que du coup, je pense qu'on est un peu... Je pense qu'elle peut surprendre, elle peut énormément surprendre de par sa répétition, de par sa difficulté, son exigence. Je leur souhaite... de se laisser prendre dans cette répétition, et je pense qu'il y a quelque chose qui devient un peu hypnotisant et voilà, de se laisser porter là-dedans.
Nina ?
Je suis tellement traversée par tellement de choses quand je la danse, et j'espère pouvoir montrer à quel point c'est libérateur et possible de se laisser traverser par ce qui nous arrive, que ce soit dans le mouvement ou en regardant du mouvement. Et donc j'aimerais bien qu'ils puissent sentir une liberté à se dire « Ah tiens, ça me fait ressentir ça, ça me fait penser à ça, ça demain j'aimerais bien l'essayer, ah cette musique elle me donne envie d'hocher la tête », d'être vraiment un spectateuriste ouais, vraiment actif et de se libérer de pouvoir être libre, quoi.
Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a des gestes du quotidien aussi dans cette danse. Ouais. Eva ?
Moi, j'aimerais qu'ils sentent... Enfin, j'espère que certains et certaines sentent la puissance, pour le coup, que ce mouvement dégage. Et je pense notamment à la partie qui est la plus connue et qui va, du coup, être transmise sur les chaises. Il n'y a pas un soir où on le danse et où je ne me dis pas « Ah, quand même, là, on fait un truc de fou ». Et oui, je me sens puissante. Et c'est un sentiment qui est hyper agréable dans la danse et avec des femmes qui, en plus, sont mes amies au plateau. Donc, j'espère que ça, on le ressent.
Est-ce qu'après toutes ces représentations, puisque ça fait quand même un moment, la pièce, elle continue encore à vous surprendre ?
Oui, chaque jour est différent. Et donc, chaque jour sur le plateau est différent. Mmh. Et chaque jour, il y a des surprises, on s'auto-surprend, on se fait surprendre par nos collègues. C'est ça qui est la beauté du spectacle vivant. Donc, embrassons ça, ouais.
Eva ?
Oui, moi, à chaque fois, je me fais surprendre. Sur à quel point elle est longue et elle est dure. Elle est très, très dure. Il n'y a pas un soir où je ne serre pas les fesses pour essayer d'aller jusqu'au bout, pour que le sang remonte à mon cerveau. Mais c'est... Mais surtout, elle me surprend dans son rapport à la musique, quoi. On parlait tout à l'heure de... Bah pour le coup, le quatrième mouvement, il y a enfin un lien qui est possible entre nous. de par les regards, de par les changements de direction. Et quand ça marche et qu'on arrive à vraiment sentir et que la musique nous porte et qu'on dépasse la fatigue, il y a quand même quelque chose qui est tellement agréable. Et à chaque fois, je me surprends, mais à un endroit différent. Enfin, je suis surprise à un endroit différent de la pièce et ça, c'est génial, quoi. Ça reste vivant, en tout cas.
Yasmine ?
Oui, non, enfin, je pense juste qu'on amène vraiment, enfin, comme on l'a dit avant, on amène notre journée, on amène notre vie, on est toujours dans des villes différentes, donc chaque spectacle est différent. Et oui, je pense que ça restera toujours surprenant. Mmh. Chaque performance, chaque... Ouais.
C'était les 19, 20 et 21 mai que les trois invités de Nadia, Yasmine Achtari, Eva Galmel et Nina Goderis jouaient le spectacle Rosas Danst Rosas au Triangle. Vous avez entendu pour illustrer cette interview la musique originale de Thierry Demey et Peter Vermersch de Rosas Danst Rosas. C'est la fin de Deboule Vanille. On se retrouve prochainement un vendredi sur Canal B. Mais je vous rappelle que l'émission a lieu tous les jours, du lundi au vendredi, de 17h à 18h, rediffusion du mardi au samedi, de 9h à 10h, pendant les mois de juillet et août. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bon été sur Canal B. Ciao !